France Culture. Les nuits de France Culture.
Autrefois, il y avait les valeurs et par ailleurs les réalités. Il y avait l'esprit et par ailleurs le corps. Il y avait l'intérieur et d'autre part l'extérieur. Mais si justement l'ordre des faits envahissait celui des valeurs, si l'on s'apercevait que les dichotomies ne sont tenables qu'en deçà d'un certain point de misère et de danger. Ceux même d'entre nous, aujourd'hui, qui reprennent le mot d'humanisme, ne soutiennent plus l'humanisme sans vergogne de nos aînés. Le propre de notre temps est peut-être de dissocier l'humanisme et l'idée d'une humanité de plein droit, et non seulement de concilier, mais de tenir pour inséparable la conscience des valeurs humaines et celle des infrastructures qui les portent dans l'existence. En 1951 se tiennent les 6e rencontres internationales de Genève, autour du thème « Connaissance de l'homme au XXe siècle ». Parmi les illustres conférenciers, l'un d'entre eux se distingue, le philosophe français Maurice Merleau-Ponty, qui donne une conférence intitulée « L'homme et l'adversité ». Cette conférence, dont vous avez entendu un court extrait, postule que l'homme de la deuxième moitié du XXe siècle est dans une position bien moins confortable qu'auparavant. Vivant autrefois dans un monde de dichotomie claire et d'absolu, ces conventions de pensée ont été déconstruites ou détruites par les événements et les penseurs modernes. Le monde, autrement plus complexe, résiste beaucoup plus à l'homme, qui se retrouve face à un adversaire qu'il ne peut nommer, dans un brouillard épistémologique et éthique. Dans ce premier de deux numéros, de « Des idées et des hommes » consacré à cette conférence de l'auteur du Visible et l'Invisible, Jean Amrouche réunit Jean Starobinski, Georges Poulet, Jean Lescure et Merleau-Ponty lui-même pour débattre des implications de cette intervention qui fait grand bruit dans le paysage intellectuel de l'époque. Une émission diffusée pour la première fois le 15 septembre 1951 sur la chaîne nationale.
Le journal Parler présente « Des idées et des hommes », une émission de Jean Amrouche.
Ici Jean Amrouche qui vous parle de Genève. Le public nombreux qui suit les manifestations des 6e rencontres internationales de Genève attendait beaucoup des conférences de Jules Romain et de José Ortega y Gasset, l'illustre philosophe espagnol. Ces deux manifestations avaient attiré la grande foule. Mais la conférence qui a suscité les réactions les plus vives et les plus profondes est certainement celle de Maurice Merleau-Ponty, qui avait choisi pour thème l'homme et l'adversité. Maurice Merleau-Ponty est ici même, en compagnie de Georges Poulet, qui nous vient d'Édimbourg, et qui est connu pour ses études sur le temps humain, de Jean Starobinski, médecin, philosophe et essayiste, de Jean Lescure, enfin, poète, dramaturge et esthéticien. Par le titre même de sa conférence, l'homme et l'adversité, Maurice Merleau-Ponty a voulu indiquer, me semble-t-il, que l'homme d'aujourd'hui, que vous, moi, occupe une position moins confortable que par le passé, que tout l'appareil des croyances, des mythes, des tabous, des conventions et des lois, et j'entends par loi non seulement les lois civiles, mais aussi les lois de la recherche, qui constituaient le cadre de sa pensée et de son action, que tout cet appareil se trouve aujourd'hui contesté, ébranlé, sinon détruit. De sorte que l'homme d'aujourd'hui, que l'homme moderne de 1951, aurait en quelque sorte tout à réinventer, tout ce qui peut diriger son existence, orienter sa pensée et lui permettre en définitive de construire sa vie, si toutefois aujourd'hui les mots de construire une vie peuvent encore avoir un sens. Mais Jean Starobinski va peut-être nous dire qu'après tout, ça n'est pas une chose tout à fait nouvelle et que dès les origines mêmes de l'humanité, l'homme a été en proie à l'adversaire, sinon à l'adversité.
Je crois en effet qu'il faut distinguer une adversité archaïque et une adversité moderne. Cette adversité archaïque, c'est celle dans laquelle les espèces animales elles-mêmes sont plongées et à laquelle elles répondent par cet effort que les biologistes appelleront l'adaptation. Et il est évident que dans les conditions primitives, l'homme a subi l'adversité. L'adversité, pour lui, c'était les conditions mêmes de la nature, d'une nature très souvent extrêmement dure. Et on peut se demander si précisément cette réponse à l'adversité, selon une formule sans doute contestable et que M. Maurice Merleau-Ponty a contesté lors de sa conférence, cette réponse à l'adversité, cette adaptation, c'est la civilisation. Seulement, la civilisation qui est une réponse à l'adversité, qui est un dégagement de l'homme hors de l'adversité naturelle, nous apporte peut-être de nouvelles formes d'adversité. Et c'est là qu'apparaîtra cette adversité moderne à laquelle je faisais allusion.
Mais c'est précisément cette adversité moderne que je voudrais voir Maurice Merleau-Ponty, ou du moins entendre Maurice Merleau-Ponty, définir ou décrire.
Oui, je crois que Starobinski a très bien compris ce que je voulais dire. En fait, j'ai été amené à employer ce mot d'adversité dans le titre de la conférence qui m'était demandée par un souvenir d'une phrase qui se trouve dans L'être et le néant de Sartre et qui est à peu près la suivante. Sartre explique que notre volonté ne rencontre pas à proprement parler de limites dans les choses extérieures et que tout ce qui peut arriver, c'est qu'elle se heurte à une espèce de coefficient d'adversité, dit-il. Il voulant dire par là que, par exemple, même quand nous souffrons extrêmement, il n'y a pas de moment où nous soyons obligés de céder à la douleur, quoique cependant la douleur nous incline à céder, et c'est justement cette force douce, comme il dit ailleurs, de la douleur, que l'on peut appeler dans le cas particulier adversité. Alors, il m'a semblé que l'idée devait être généralisée, et j'ai appelé adversité dans cette conférence ce qui s'oppose, en effet, à la réalisation, comme vous disiez, de l'harmonie, de l'accord avec soi-même et avec autrui, mais ce qui s'y oppose sans être un adversaire que l'on puisse précisément nommer. Par exemple, cette notion d'adversité, je crois, n'a pas de place dans l'esprit de ceux qui considèrent la vie humaine comme un combat entre deux postulations simultanées, selon le mot fameux, entre Dieu et Satan. Dans ce cas-là, ce n'est pas à une adversité qu'on a affaire, c'est un adversaire. Il y a un vainqueur qui a un nom, et il y aura un vaincu qui a aussi son nom. Ce que j'ai voulu appeler adversité, c'est cette espèce de mouvement sournois par lequel les choses se dérobent à notre prise, dans tous les ordres de création ou de recherche que l'on puisse citer en exemple.
Oui, mais ce que vous venez de dire, Merleau-Ponty, appellerait de ma part une remarque que je voudrais bien que vous receviez, et qui est celle-ci. Je me demande si, dans une certaine mesure, la phrase de Sartre n'est pas simplement un nouveau vêtement qui est donné à une notion très ancienne. Après tout, l'adversaire dont vous parliez, et auquel vous ne voulez pas donner de nom, sans doute parce que vous refusez son existence métaphysique, que ce soit Dieu, que ce soit Satan, c'est celui que Prométhée, par exemple, a trouvé. C'est l'éternel conflit entre la nécessité et la liberté, et ce mystère selon lequel l'homme ne peut s'affranchir de la nécessité qu'en s'y soumettant. Quand je parle de l'homme qui s'affranchit de la nécessité en s'y soumettant, c'était parce que vous parliez tout à l'heure d'une victoire de l'un ou l'autre. Mais précisément, il n'y a pas de victoire de l'un ou l'autre. Du moins, dans ces conceptions anciennes, archaïques, comme dirait notre ami Starobinski, que vous récusez. Je ne sais pas si j'ai été assez clair.
Si je ne nomme pas l'adversaire, vous dites que c'est parce que je lui refuse l'existence, mais reste à savoir pourquoi je lui refuse l'existence. Je ne le nomme pas parce qu'on ne peut pas le séparer. Vous disiez que des notions analogues se rencontrent dans des modes de pensée antérieurs lorsque la liberté se trouve en présence d'une nécessité. Mais je ne dirais pas que la nécessité est une adversité, puisque comme on l'a expliqué très souvent, elle est aussi le moyen par lequel nous pouvons changer les choses et agir sur elles. Parce qu'ici, il n'y a pas véritablement affrontement de notre initiative avec quelque chose qui la limite. Et tandis que je me suis servi du mot et de l'idée d'adversité, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas séparer nos opérations de liberté de ce fond sur lequel elles s'exercent et qui de temps à autre se dérobe à nos prises. Ceci peut paraître très abstrait, mais nous pourrons tout à l'heure, si vous voulez, l'appliquer à...
Tout à l'heure, non, tout de suite, si vous voulez bien.
Mais il me semble ici précisément que ce qui se dérobe à nos prises, c'est ce qui se dérobe à un sens, et que l'opération qui consiste à donner un sens aux choses, l'opération même qui les dénomme en leur donnant un sens, et parfois un simple geste donne un sens au corps sans dénommer proprement, c'est déjà une lutte contre l'adversité, c'est déjà un dégagement hors de l'adversité. Et ceci peut évidemment s'étendre à la littérature entière.
Oui, mais je ne voudrais pas que nous étendions cela tout de suite à la littérature entière. Je voudrais bien que Merleau-Ponty dévoile l'exemple concret auquel il faisait allusion il n'y a qu'un instant.
Eh bien, je peux donner l'exemple suivant qui, il me semble, s'applique très bien à ce que je veux dire. Lorsque la peinture cesse de s'imaginer elle-même qu'elle est vouée à ressembler au monde, à ressembler aux objets, lorsqu'elle devient, comme il arrive à la fin du 19e siècle en France, lorsqu'elle devient peinture absolument, absolument et absolue, c'est-à-dire lorsqu'elle ne se préoccupe plus de créer des images qui ressemblent aux choses, et lorsqu'elle crée librement. À ce moment-là, elle ne dispose plus d'aucun modèle extérieur à elle, et par conséquent, elle est en quelque sorte en porte-à-faux. Et dans ce cas-là, chaque fois que dans sa création, l'artiste trouvera une espèce d'empêchement, de paralysie, lorsqu'il n'arrivera pas finalement à créer ce qu'il voulait, il n'arrive jamais à créer ce qu'il voulait, on pourra dire qu'il a affaire à l'adversité. Autrement dit, la notion d'adversité est tout à fait corrélative de celle d'une activité qui n'a pas non plus de garant et de modèle supérieur auquel elle puisse se référer.
Oui, ceci je le comprends bien, encore que dans le cas de la peinture, il y a tout de même un fait concomitant avec cette espèce de processus de purification de la peinture et qui est le développement de la photographie. L'artiste a été, du moins l'artiste occidental, je ne parle pas des autres, du moins l'artiste occidental a été pour ainsi dire repoussé vers la peinture pure, vers la peinture par le développement de la photographie. C'est ce qui l'a libéré du figuratif.
Oui, je ne sais pas si on peut dire, enfin c'est vraisemblable que cela a servi à le repousser. Cependant, il me semble que en même temps, n'est-ce pas, que le peintre moderne renonce à représenter, il se voit conduit à quelque chose que vous appeliez tout à l'heure peinture pure, n'est-ce pas ? Il me semble qu'à ce moment-là, il découvre quelque chose d'autre. C'est la peinture, précisément. Et que ce qui l'oblige, ce qui l'incline, ce qui va déterminer son contrôle, sa critique, son refus de la toile, c'est précisément une notion de la peinture, c'est-à-dire encore une forme.
Pas une notion,
c'est vrai. Non, pas une notion, non, naturellement, c'est absurde. Un sentiment, je ne peux pas dire non plus, n'est-ce pas ?
D'ordinaire, ce qu'il éprouve simplement, c'est l'insatisfaction de ce qu'il a fait. Il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire.
Il ne sait pas ce qu'il veut faire.
Il sait simplement que ce qu'il a fait ne lui paraît pas encore ce qu'il voulait faire.
C'est
par
ça.
Exemple, Cézanne, on a souvent cité ce cas, à la fin de sa vie, disant « je travaille et je fais des progrès ».
Oui.
Progrès vers quoi ? Vers ce qui devait être dans son esprit la peinture de Cézanne et qui, à en juger par les dates, n'a jamais été réalisé.
Oui, était-ce que vers quelque chose qui se trouvait plus ou moins préfiguré en lui-même ? Je n'en sais rien, mais Georges Poulet peut-être pourrait nous dire quelque chose à ce propos ou à d'autres propos après tout. Ça fait 15 minutes qu'il nous écoute sans rien dire.
Mon avis, c'est que le même phénomène se pose en littérature. C'est-à-dire que la littérature nous apparaît à la fois comme une réalisation et comme une sorte d'échec de cette réalisation même. Il y a toujours un au-delà de ce qui a été dit et qui marque précisément cette résistance, qui est la résistance de l'adversité.
Mais tenez, il y a une très bonne formule de l'adversité en littérature, elle est donnée par Balzac lorsqu'il parle de cette puissance sans nom avec laquelle il est en lutte, et qui de temps à autre lui ferme la bouche, c'est à peu près sa phrase. Hein. Il a pourtant beaucoup écrit, comme on sait, mais il avait l'impression que tout ça n'était encore rien, qu'il n'avait pas dit cela précisément qu'il voulait dire. Et s'il l'avait su, il l'aurait naturellement dit. Par conséquent, il ne le savait pas d'un savoir véritable.
C'est ça, non, absolument pas.
Mais il me semble que nous approchons là d'une notion d'adversité qu'il sera certainement très difficile de définir et dont il me semble on ne prend conscience que dans des entreprises particulièrement privilégiées. Tout à l'heure, Starobinsky faisait allusion à la littérature. J'ai essayé d'écarter le débat de cette voie qui me paraissait encore prématurée. De la littérature, nous sommes tombés à la peinture. Bref, nous sommes revenus à la notion d'adversité telle qu'elle se manifeste dans l'acte par excellence de l'homme, c'est-à-dire dans l'acte par lequel il crée, dans l'acte par lequel peut-être il cherche à se satisfaire en se délivrant, de quoi nous n'en savons encore rien, et j'aurais voulu réserver justement cette recherche pour un autre entretien. Parce que votre conférence, Merleau-Ponty, semblait poser précisément que, aujourd'hui, pour l'homme d'aujourd'hui, pour l'homme du XXe siècle qui vit véritablement avec son temps, l'adversité était le fait de toute existence et le fait de toute conscience, et pas simplement le fait de la conscience dans aux prises avec un acte particulièrement privilégié.
Oui, mais ça justement, je me demandais tout à l'heure, lorsque Merleau-Ponty citait Balzac, si on ne trouverait pas justement dans la fameuse interpellation, n'est-ce pas, devant Paris, et maintenant à nous deux, si on ne trouverait pas là quelque chose qui serait davantage l'adversaire que l'adversité, sans cependant que cet adversaire soit aussi clairement énoncé que normalement il le devrait.
L'adversaire, c'est la société, dans ce cas-là.
Oui, là, l'adversaire a un nom. Et les intentions de Rastignac, ses ambitions, peuvent être très aisément décrites. Enfin, lui-même peut dire ce qu'il voudrait, ou ce qu'il veut, ce qu'il attend de la vie. Je crois que l'ambition de Balzac était plus haute, plus profonde et moins définissable que celle-là, sûrement.
Oui, sans doute. Mais nous voici encore.
Oui. Dans la situation privilégiée.
Nous voici encore dans la situation privilégiée, dans la situation de l'artiste. Et j'avoue que mon propos était beaucoup plus humble que celui-là, parce que c'est peut-être une illusion, mais nous avons le sentiment que l'homme d'aujourd'hui n'est pas très heureux, n'est-ce pas, et qu'il est peut-être moins armé que ne fut l'homme du XVIIe siècle pour connaître le bonheur, si toutefois l'on peut définir le bonheur par cet état de paix et de satisfaction avec soi-même et avec autrui. C'est simplement cela, je crois. Et je me demande si l'on peut recevoir cette notion générale. Qu'en pensez-vous, Merleau-Ponty? Est-ce votre avis?
Eh bien, écoutez, tout à fait en dehors des difficultés de la vie littéraire et de l'existence d'écrivain, il y a des exemples qui me paraissent prouver que les hommes d'aujourd'hui ne sont plus et ne peuvent plus être aussi contents d'eux que dans des générations précédentes. Voici à quoi je pense, par exemple. On peut dire que depuis 50 ans, on s'est efforcé par tous les moyens de faire connaître à tout le monde les dessous de toutes les activités. Le côté généralement caché par l'histoire officielle a été très volontiers révélé. On s'est efforcé de toujours découvrir les infrastructures. En particulier, on s'est efforcé de montrer comment les décisions que nous croyons des décisions de la tête sont souvent des décisions liées à toute notre vie instinctive. J'ai parlé dans cette conférence que vous mentionnez, j'ai parlé longuement justement du freudisme et de son influence qui est évidemment énorme quand on songe à des influences qui s'exercent vraiment sur un grand nombre de gens et en dehors du monde savant. Je crois qu'il faut nommer celle-là en premier lieu. Eh bien, des conceptions et des recherches comme celle-là, avec toutes leurs conséquences dans l'histoire littéraire et dans tous les domaines, ont pour résultat de faire que nous ne pouvons plus séparer, pour ainsi dire, ce qu'on appelle le supérieur, et puis d'un autre côté, toute cette vie grouillante qui est par en dessous et que l'on révèle par tous les moyens. Par suite, je ne crois pas qu'aucun homme aujourd'hui puisse jamais considérer une seule de ses actions sans en faire une critique assez aiguë, en se demandant si les motifs nobles qui sont invoqués par lui sont les vrais motifs, en cherchant par au-dessous s'il n'y a pas des motifs moins honorables. Il y a un état de bonne conscience qui me paraît incompatible avec cette lucidité-là,
Mais ceci, je le conçois bien, mais il ne me semble pas, après tout, que cet état de mauvaise conscience, ou de conscience malheureuse, ou de conscience, comment dirais-je, harassée, se distingue si radicalement des états de conscience à peu près constants de ceux qui furent par la suite canonisés, et qui se sont toujours considérés comme d'effroyables pécheurs, et qui n'ont toujours vécu précisément dans un état de conscience qui s'accablait elle-même.
Oui, seulement pécheur. Pécheur, ça signifie qu'on a été tenté. Par conséquent, on n'est pas entièrement et absolument responsable de cette situation. Tandis qu'au contraire, à partir du moment...
Si, précisément, le saint se considérait toujours comme responsable de cette situation.
Il n'en était pas innocent, mais enfin, ce n'était pas eux tout de même qui avaient fait le mal. Initialement, le mal était venu au monde parce qu'il y avait un principe du mal.
Il me semble qu'il y a une grande différence entre la situation ancienne et la situation nouvelle, qui serait précisément celle-ci. C'est que dans la situation ancienne, si on avait mauvaise conscience et si on se sentait coupable, d'autre part, on savait qu'il y avait des innocents et on supposait qu'il existait une innocence.
Oui.
Si Phèdre, par exemple, lorsqu'elle mourait, faisait un adieu si douloureux au monde, il y avait une espèce de consolation pour elle dans le fait de supposer que le jour était restitué dans sa pureté. Ce sont à peu près les derniers mots de la pièce. Or, justement, maintenant, il nous semble, et c'est ça peut-être qui cause notre harassement, notre fatigue et notre inquiétude, il nous semble que le monde entier est coupable. Ce n'est pas simplement le sens de notre culpabilité personnelle ou le sens que nous sommes attaqués personnellement. Il semble que nous avons une espèce de solidarité par laquelle nous sommes coupables, parce que tout le monde est coupable.
Oui, j'irai même peut-être plus loin dans votre sens, cher Poulet, c'est ceci. Parce qu'un fameux héros de notre temps, je veux parler de Joseph K. du procès, est précisément coupable d'une seule chose, c'est d'être innocent. Et c'est peut-être pourquoi ce héros de Kafka est si extraordinairement représentatif de notre temps. Et j'avoue que j'avais été un peu surpris de voir que dans cette fameuse conférence, notre ami Merleau-Ponty n'avait pas fait la moindre allusion justement à Kafka et à ce personnage. Pour finir ce petit débat, peut-être voudrait-il nous dire la raison de cette omission.
C'est une raison.
S'il y en a une.
Il y en a plusieurs. En fait, je n'ai pas pensé à parler de Joseph K. Voilà le fait. Et alors ce fait mérite explication. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Parce que si je l'avais fait, et si je parlais comme vous le faites en ce moment-ci, et comme M. Poulet vient de le faire, j'aurais fait une conférence absolument pessimiste, et cette conférence n'était pas pessimiste. Je n'ai pas parlé de l'adversité tout court, j'ai parlé de l'homme et l'adversité.
Mm-hmm.
Ce qui me paraît caractéristique de l'homme, ce n'est pas simplement de se sentir coupable, d'être constamment retenu en arrière par une espèce de matière pesante et sourde qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Ce qui me paraît caractéristique de l'homme, c'est que dans cette situation-là, il a quand même et il fait quand même des accomplissements. Pas Cézanne croyait qu'il avait raté sa peinture, mais nous autres, nous ne sommes pas de son avis. Et ce qu'il considérait comme les ratés de sa peinture, c'est pour nous la peinture de Cézanne.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, vous soulevez maintenant un tout autre problème que nous aurons peut-être à examiner un petit peu tout à l'heure. C'est le problème de l'envers et de l'endroit. C'est le problème qui est lié à notre existence, le fait qu'aucun d'entre nous ne peut entendre sa propre voix et qu'il entend quelque chose qu'il reconnaît comme sa propre voix. Et ainsi vous-même, si vous n'avez pas encore l'habitude du micro, lorsque tout à l'heure vous demanderez peut-être à vous entendre, vous serez tout à fait surpris d'entendre objectivement votre voix, alors qu'actuellement, ou du moins chaque fois que nous parlons, nous l'entendons de la gorge. Enfin, je ne sais pas très bien comment disent les biologistes. Et ainsi, la peinture de Cézanne vue par lui à l'envers ou à l'endroit, comme vous voulez, est une chose tout à fait différente de sa peinture vue par nous, que nous estimions que c'est nous qui la voyons à l'endroit et que c'était lui qui la voyait à l'envers ou le contraire.
Alors c'est là précisément qu'il y a ambiguïté, puisqu'en définitive, nous nous apercevons que l'homme est constamment en proie à l'adversité et qu'il est également constamment en train de s'en dégager.
Eh bien, si vous voulez, dans quelques instants...
C'est pourquoi, je vous demande pardon, c'est pourquoi je ne veux pas donner de nom à cette adversité, car si elle était quelqu'un, on ne s'en débarrasserait pas comme ça.
Eh bien, tout de même, il faudra que, au cours de notre prochaine conversation, nous essayions de nous en débarrasser, ou du moins d'en débarrasser nos auditeurs.
Parler vous a présenté des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
C'était L'homme et l'adversité, un numéro des idées et des hommes de Jean Amrouche avec Jean Starobinski, Georges Poulet, Jean Lescure et Maurice Merleau-Ponty. Première diffusion le 15 septembre 1951 sur la chaîne nationale.